Salut.
Coucou.
Bonjour. Salut. C'est le retour d'Imaginaire en live sur Radio G.
Yes.
Sur le 100.5.
Et on n'était pas pressé.
Ah bon?
Avec l'été. Hein.
Jamais.
Bah cet été, on a rediffusé des choses. C'était sympa aussi.
Oui, il y a Marie-Charlotte qui a réapparu sur la radio. Alors ouais. Ça. Ouais. Mais c'est pas la seule antiquité qu'on a ressuscité. Hein.
Voilà.
Eh ben Marie-Charlotte, très l'antiquité. J'ai été contente.
Sébastien, tu nous as ramené des livres dont vous êtes le héros.
Oui, mes lectures estivales, des loups solitaires dont je parlerai par la suite de l'émission.
Tout à l'heure, Jean-Luc, t'as été voir des navets.
C'est
pour
ça,
changer.
Un très très beau navet, Madame Web.
Il est quand même numéro 5 sur oui. Netflix, il me semble.
Ouais, c'est vérifié hier.
Bon. Je sais pas pourquoi en fait.
Ouais. Ah bon, bah, on verra ça tout à l'heure. Tu nous en avais déjà
parce
parlé.
Parce qu'il est gratuit sur Netflix.
Il avait gagné.
Non, sur Amazon.
Les Radio Awards.
Ah bon, d'accord. Ça, oui. Ouais, il avait gagné pas mal de Radio Awards.
C'est ça, plusieurs Radio Awards.
Bon, c'est quand même un signe.
C'est vrai.
Et puis Pierre-Marie et Jean-Hugues, vous êtes venus nous parler de...
Alors, avant de parler de ça, moi j'ai besoin qu'on m'exercice un truc. Je ne comprends pas. C'est un signe ou c'est un navet?
C'est un navet. Voilà. Un magnifique navet.
Après cette magnifique blague pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance...
Là, ça fait peur. Hein.
Comme je vous le disais, on ressuscite encore un dinosaure, hein, parce que signe, navet, tu vois, c'est la suite. Donc le dinosaure, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'a pas entendu sa douce mélodie sur la radio.
Non, ah oui, le Tyrannosaurus Imperium.
Exactement. Bah, y en a un qui suit.
Il faisait des chroniques à l'époque.
Les autres étaient un peu trop jeunes. Et ouais, on va
ouais,
pouvoir...
mais c'est parce que c'est trop politique, il paraît.
Et on va pouvoir parler d'une de tes nombreuses casquettes.
Une nouvelle casquette.
Ouais, bah en même temps, c'est l'été, c'est normal qu'il porte une casquette.
Ok.
Ah oui, on est en dire ce point-là, quoi.
Ouais, 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 c'est assez. C'est vrai que. Ouais.
Je vous avais manqué.
C'était terrible.
Et donc, cette casquette?
Ah ben non, je garde la surprise.
Ah ok.
Non mais. Si les gens avaient lu notre post ouais. Sur les réseaux sociaux qui annonçait la chose, ils le sauraient déjà. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'étaient juste pas intéressés, eh ben ils vont le découvrir. La surprise avant tout.
D'ailleurs, je vais me mettre sur le chat de Radio G, donc vous allez pouvoir bonsoir hein, auditrice, auditeur, intervenir si vous voulez, enfin moi sur le chat dans cette émission. Est-ce que quelqu'un a regardé Alien Earth?
Pas encore.
La série.
Pas encore.
Ouais.
J'ai pas envie, moi.
Bon, t'as pas envie. Eh bien, bah moi, je suis plutôt satisfait pour le moment. On avait fait une émission spéciale fin juin, qu'on avait rediffusée cet été.
Ça.
Et voilà, le troisième épisode sort demain. Alors, je me demande, c'est en 8 épisodes. Par contre, je sais pas comment ils vont faire, parce que là, tel que c'est parti, tu te dis, bon, allez. Ça y est, tout est, voilà, machin, retrouvé machin, machine et tout. Hop, le xénomorphe est là. Bon, encore un épisode pour torcher tout ça, puis c'est bon, quoi. Bah non, il y en a encore 5 après. Donc,
ils vont meubler.
Voilà. Ouais, bon. Ouais. Le deuxième épisode se terminait, bon, sur un cliffhanger, hein, forcément, et surtout sur ce morceau de Tool, qu'on n'avait pas écouté depuis longtemps. Donc rendez-vous dans quelques minutes avec Imaginaire. Pistes de Tool, extrait de leur deuxième album Anima en 1996. Un clip assez dégueulasse, hein, fait par la, que je viens de revoir là pour le coup, fait par le guitariste du groupe et qui était soi-disant influencé par Geiger. Donc quelque part, la boucle est bouclée. Cette série Alien Earth sur Disney+, je m'attendais pas non plus à un truc aussi dégueu. Le deuxième épisode est quand même bien bien gore, il y a de la tripaille et tout. On se disait, c'est peut-être pour ça que t'avais peur toi de regarder ça, tu te dis, oh non mais Alien par Disney, oh là là. Bon.
Oui, du coup ça donne plus envie.
Comme je le disais en préambule, nous, pour préparer cette, cette émission, nous avons décidé de ressortir les vieux grimoires qui traînaient dans nos greniers et on a fait une petite, petite cérémonie, un petit rituel pour ressusciter des trucs qu'on aurait préféré voir rester enterrés. Madame Webb et Jean-Hugues Villacampa.
Jean-Hugues Villacampa. Ça vous fait rien.
Madame Webb, c'est tout récent.
Jean-Hugues Villacampa est une personnalité angevine, quasiment un notaire.
Je ne sais pas si c'est un compliment.
Bouquiniste sur Paris jusque dans les années 2000, à un magasin qui s'appelait Phénomène J, spécialisé dans les livres d'occasion, l'imaginaire, les jeux de société et les jeux de rôle.
Et les cartes à jouer, et à collectionner.
Oui, mais ça, ça rentre dans les jeux de société.
Ouais.
Ah bah bien sûr.
Il décide de laisser tomber la vie parisienne pour la douceur angevine, et je parle bien ici de la douceur d'une peau angevine, et s'installe sur Angers où il ouvre Phénomène J, deuxième du nom, toujours pour des livres d'occasion, des jeux de société, des jeux de rôle. Il se fait chier quand même. 2004-2010, il s'emmerde. Angers, la douceur angevine, c'est beaucoup dans la tête. Ça manque de choses qui le motivent. Du coup, avec quelques personnes qui passent dans la boutique, ils décident de créer une association pour monter un salon de l'imaginaire sur Angers et concurrencer les Utopiales. Spoiler alert, il ne réussira pas. Mais, comme il s'emmerde et qu'un salon annuel ne lui suffit pas, pour renouer avec sa passion du livre, il décide d'éditer une anthologie annuelle pour financer ce salon-là. Ce n'est pas son premier coup d'essai, puisqu'il a été préfacier, postfacier, nouvelliste, auteur, chroniqueur, journaliste. Putain, il en a fait des trucs avec les livres.
Il
a gavé tout le monde.
Il paraît même qu'il a écrit des trucs sous pseudo.
Nègre littéraire. Mais ça, il ne fallait pas en parler. Heureusement que je sais moi qu'il
le dit. Je n'ai pas dit grand-chose. Hein.
Nous arrivons donc en 2011, première édition du Salon Imaginaire, première anthologie. Une seule ne suffit pas. On en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça continue. Encore et encore, c'est que le début.
D'accord.
Mais à chaque fois, il rencontre des personnalités, il discute, il se fait des rencontres qui sont autant de coups de foudre littéraires que de coups de foudre amicaux. Et dans les années 2019, ayant fait le tour de la question, il abandonne la présidence d'Imaginaire. De là à dire qu'Imaginaire est mort, c'est pas le cas. Ça continue, encore et encore, c'est que le début.
D'accord.
Ayant décidé de reléguer son poste de président de l'association à celui de barman, nettement plus important et surtout nettement plus convivial, il lui manque un truc avec la littérature, ce qu'il a remplacé par la gastronomie. Il décide donc de s'associer, pour ne pas dire s'acoquiner, avec deux autres personnalités et de renouer avec la littérature pour faire découvrir des textes improbables. Une maison d'édition est née. Il y a eu de grandes discussions sur son nom et on a fini par accoucher une étincelle. Non, c'est pas vrai, c'est À la flamme. Et là, ouais, l'éclair de génie à la flamme. Trois livres sont sortis, deux livres pour le Salon Imaginaire 2025, en avril, donc un livre qui leur a suivi peu de temps après. Et dedans, sur tes trois livres, aucun d'imaginaire. Blasphème, honte et ignominie. Tu vas pouvoir me reprendre sur tout ce que j'ai dit pour dire toutes les erreurs que j'ai faites.
D'accord.
Je suis en train de prendre des notes.
Tout ce qui m'intéresse là-dedans, c'est sur l'infidélité que tu as fait imaginaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette maison d'édition ?
Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les erreurs que tu as faites, parce que sinon, ça prendra la réunion. En revanche, dire que ce n'est pas d'imaginaire, c'est
en partie
faux. Puisque sur les trois premiers, on peut dire que la camionnette qui servait de volière et puis Épicène sont intimement liés à l'imaginaire. Et alors il est vrai que Gertrude et compagnie, c'est vrai que c'est plus poétique, c'est un hommage à Gertrude Stein et tout ça. Alors la raison pour laquelle...
Pour nous dire qui c'est d'ailleurs.
Comment ?
C'est qui,
Alors Gertrude Stein,
est-ce qu'on en parle tout de suite?
Non, on n'en parle pas tout de suite. Et je maintiens ce que je dis, les livres de À la flamme, ceux qui sont sortis, les trois premiers, sont autant liés à l'imaginaire que l'anomalie de chez Gallimard. Oui, ça s'en drape, mais ça s'en écarte pour garder quand même son lectorat.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, on voulait pas... Frédéric Boudet, Jérôme Verdier et moi, donc, on ne voulait pas faire une énième maison d'édition de l'imaginaire. Et en même temps, on ne voulait pas faire de la blanche. On voulait faire ce qu'on avait en vue.
Qu'est-ce que la blanche ?
La littérature blanche, c'est tout ce qui n'est pas littérature de genre. Donc, qui n'est pas polar, SF, thriller, c'est ce qu'on voit chez NRF Gallimard, Le Seuil, voilà. Alors, en sachant que les frontières sont de plus en plus diffuses entre le genre et la blanche, hein, on le voit effectivement, l'anomalie est un bon exemple, il y en a d'autres, et même entre le thriller et le fantastique, hein, c'est de plus en plus flou. Et nous, ce qu'on voulait, c'est éditer des textes que, alors, soit comme La Camionnette, qui n'ont pas pu vivre leur vie tranquillement parce que ça s'est pas très bien passé au niveau de la maison d'édition, mais pourtant qui méritait une très belle place dans le monde de la SF. Et puis on voulait surtout faire des textes qui sortaient des chemins battus. Donc par exemple pas de la romantaisie, pas de la romance, pas de la littérature traditionnelle. On voulait vraiment des textes qui, quand on repose le bouquin, on se dit bah tiens, il s'est passé un truc quoi. Donc ça, c'était vraiment notre axe. On a failli s'appeler singulier, puisque nos textes sont les textes qu'on choisit sont singuliers. Et puis après moult discussions, parce que ça a été très très long le choix du nom, on a fini par se mettre d'accord sur À la flamme, en sachant qu'on y avait pensé assez vite. Et puis on a des confrères, par exemple les Forges de Vulcain, À la flamme, on s'est dit il faut pas mêler les, et puis pas du tout en fait. Donc voilà la raison pour laquelle, et puis la flamme de la passion, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé dans une aventure. Moi j'ai 66 ans, Frédéric il a 67 ans, Jérôme lui il a
un petit jeune.
Il gravite autour de la cinquantaine péniblement. Donc
tu peux nous les représenter un peu ?
Oui,
c'était ma question suivante. Tu le dis si tu veux prendre ma place.
Non, je suis bien.
Ouais, je vais vous les présenter parce que c'est des personnalités Alors, je connais Jérôme Verdier depuis Phénomène J Paris, puisque on s'est rencontré là. C'était un ami, Arnaud Cuidet. Donc, vous voyez que le monde est petit. Donc, quand je l'ai connu, il était à l'ENSUP, à l'École Normale Supérieure, en maths fondamentale. Donc, le truc, tout à fait. Mais c'était un passionné de jeu de rôle.
Il avait le temps de venir en vendre dans ton magasin.
En vendre, en acheter, jouer.
Ah oui.
Oui, c'était un client.
Ah d'accord.
Ouais, Arnaud, c'était un vendeur.
Ok. Jérôme, un client.
Jérôme, c'est un client. Okay. Et donc, on a sympathisé tout de suite. C'est un anti-Donjon et Dragon. Et donc, j'ai fait, mais comment on peut être anti-Donjon et Dragon? Donc, je leur ai fait jouer une partie dans la boutique. Et tous les anti-Donjon et Dragon se connaissaient. Et ils sont sortis en disant, mais c'est incroyable et tout. À tel point que Wizard of the Coast leur a filé la direction française de la 3,5. Voilà. Ou la 3, je voudrais pas dire de conneries, mais c'est la 3 ou la 3,5.
Des gens qui étaient anti-Donjons de Dragons à l'ABLE.
Et ils sont, Arnaud est devenu rédacteur en chef de Dragon Rouge et Jérôme était dans la bande. Voilà. Donc voilà, on s'est connus comme ça, on s'est beaucoup apprécié. Arnaud est un ami et quasiment un fils spirituel, donc les liens sont forts. Et puis donc il est allé. Alors ce qui est bien avec Normal Sup, c'est qu'on rencontre les plus grands mathématiciens du monde entier. Et donc il a rencontré. Alors je voulais pas vous dire de conneries, mais genre un mathématicien tchèque qui a fait une sorte de cours à des mecs qui étaient en doctorat. Et là il a fait bon, ok, jamais j'aurai ce niveau-là. Donc il a passé une agrégation de maths. Il s'est installé à Vierzon et il avait des contacts avec le jeu de rôle. Donc, il a fait, il a beaucoup travaillé sur Donjons et Dragons, mais pas que. Il a édité aux 12 singes un certain nombre de petits jeux de rôle clés en main. Et puis, son dernier gros travail colossal, c'est qu'il a été directeur de publication pour Pax Elfica. Où là, il coordonnait les rédacteurs, les illustrateurs, les maquettistes, les machins. C'est un cauchemar. Donc, je l'ai vécu à Faux Jeux Magazine avec Jacques Pimbois. où effectivement, au bout d'un moment, on reçoit pas l'illustration. Il y a l'illustrateur qui appelle en disant, ouais, tu sais le truc que je vais te rendre il y a 15 jours, ouais, eh ben je vais pas pouvoir le faire. Donc eh ben voilà, faut gérer tous ces trucs là. Donc pour Pex et le Fika, c'était pareil. Donc
ouais, il connaît, c'était un fou lancement, je crois, il me semble. Ouais, donc ouais. Bon, il y a. Donc on peut traîner un peu, mais il y a aussi plein de gens qui ont donné de l'argent derrière au début, donc.
Oui, et puis c'est bon, les faux lancements où il faut attendre 2 ans et demi pour recevoir le truc, pour recevoir le truc, on se souvient même plus qu'on l'avait commandé, mais c'est quoi ce truc?
Là, pour le coup, eux, ils ont été dans les temps, si je me rappelle bien.
Ouais, tout à fait. Comme pour Pax Elfica. Comme, pas du tout. Comme pour l'affaire de Luz.
Ouais, avec Casa.
Avec Casa et Thierry Crouzet, où là, ça a été dans les temps aussi.
On s'éloigne un peu de la flamme.
Alors donc, voilà, ça c'est Jérôme Verdier, c'est un garçon extrêmement intelligent, une puissance de travail colossale, heureusement. Parce que c'est pas mon cas, par exemple. Et puis, le deuxième, c'est Frédéric Boudet, aka Robert Darvel, alors qu'il a aussi beaucoup travaillé. Il a bossé chez Interforum, il a bossé chez les libraires. Et puis, il a monté le Carnoplast, qui aurait mérité une place beaucoup plus grande dans le monde de l'édition, mais qui avait un défaut majeur, à mon avis, c'est son format.
Voilà. Le fascicule.
Le format fascicule, c'est vrai qu'arranger dans une librairie pour avoir eu tout le fond du Carnoplast, c'est vraiment un bordel. Donc voilà.
Et c'est comme ça que tu l'as rencontré ?
Alors j'ai rencontré, il est venu au deuxième imaginaire en même temps que notre ami Pierre-Marie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le courant est passé tout de suite. Il a montré ses trucs. Alors c'est lui qui écrivait les Harry Dixon par exemple. Donc il a montré ses trucs, j'ai tout de suite mis ça à FNMG et ça crée le lien et puis c'est devenu un ami. C'est-à-dire que les soirées, comme les gens ne le savent pas, on héberge nos invités. Alors on héberge autant qu'on peut nos invités et donc Robert Darvel faisait partie des habitués, des invités du Salon Imaginaire.
Donc si je résume bien, sur cette maison d'édition à la flamme, on a à sa tête un trio, Jean-Yves Villacampa, qui a une vie dans le métier de la vente de livres et de jeux de société, un auteur de jeux de société, directeur d'édition, jeux de rôle, et puis surtout, sous pseudo, aussi auteur de nouvelles et de romans, Jérôme Verdier, aka Jérôme Verchuaren, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour son pseudo. Et puis Frédéric Boudet, aka Robert Darvel, auteur, éditeur, puisqu'il a été édité... en tant qu'auteur chez Les Moutons Électriques, il était aussi au Carnoplast avec 5 ou 6 autres pseudos. Il avait son pseudo d'éditeur et ses pseudos d'auteur. Ce sont des personnalités qui ont œuvré dans l'ombre pendant...
Qui a eu le prix Imaginal.
Qui a eu le prix Imaginal 2017, pour son roman de Les Femmes d'Osier.
Femmes d'Argile et d'Osier chez
Moutons Électriques.
Un trio de personnalités ayant œuvré depuis 20 ans dans le milieu de l'imaginaire, dans l'ombre, pour créer cette maison d'édition. On l'a dit, des textes singuliers, ça aurait dû être le nom de votre maison d'édition, en tout cas des textes coup de cœur. Mais les premiers romans, comme je le disais, ne sont pas d'imaginaire. Un auteur, tu as cité son roman 3 fois déjà, Une camionnette qui servait de volière, et pas un inconnu, ni d'imaginaire, ni de toi. Brice Tarvel est aussi un des vieux auteurs français de l'imaginaire. Il a écrit chez Malpertuis, il a écrit au Carnoplast, il a écrit dans pas mal de maisons d'édition.
Il a fait quelques Bob Moran,
il a fait quelques
officiels.
Bob Moran, tout à fait.
Derry Dixon, chez Malpertuis. C'est comme ça que Robert Darvel et Brice Tarvel sont connus.
Et là, vous décidez de sortir son livre. Alors, c'est que le deuxième livre, si je me souviens bien. Le premier étant... j'ai perdu le titre.
Ils sont sortis ensemble. C'est Gertrude c'est Compagnie ça. Et La Camionnette qui sortait de Valère. Ils sont tous les deux sortis ensemble.
C'est quand même, ces deux romans, c'est quand même un grand écart stylistique.
Mmh. Ah ben, complètement. Mais alors, c'est clairement revendiqué, et volontairement revendiqué. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas le genre du livre qu'on édite, c'est le fait que quand on lise... Quand on a fini de le lire et qu'on le pose, il s'est passé un truc. Alors, Une camionnette qui servait de volière, je reprends cet exemple-là, puisque moi, c'est un roman qui m'avait... Alors, j'aime beaucoup les romans de Brice Tarvel, mais celui-là particulièrement, effectivement, c'est du post-apo, rigolard, paillard, c'était vraiment, ça sortait de tout ce qu'on avait lu jusqu'à aujourd'hui, enfin moi. Alors, il est vrai aussi que ce soit Frédéric, Jérôme ou moi, nous sommes des gens qui lisons en moyenne entre 35 et 70 livres par an. Et ça, depuis des dizaines d'années. Donc, il est vrai qu'on a une idée. Moi, je sais que, par exemple, on va en parler franchement, pendant les jurys imaginaires, je me suis retiré momentanément, puisque j'y reviens cette année, de la science-fiction, parce que les textes que je choisissais n'étaient jamais sélectionnés.
Alors,
il y a une raison. C'est qu'effectivement, les textes qui étaient sélectionnés, j'avais lu des choses qui ressemblaient étrangement. Donc forcément, ça m'attirait moins que des textes qui sortaient vraiment du courant mainstream. Donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi aujourd'hui avec nos choix. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément... il y a des choses très bien, hein, je ne vais pas dire que c'est très bien, mais on l'a déjà lu. Quoi, voilà. Donc ça, on n'a pas envie. Donc on veut sortir des trucs qui soient étonnants pour le lecteur.
Alors justement,
que le lecteur soit exigeant.
Justement, un texte étonnant, Gertrude. Gertrude, c'est un roman de 300 pages qui ne comporte qu'une seule phrase.
Alors c'est pas vraiment un roman. Le truc, c'est que ça hésite entre la poésie et le roman. C'est-à-dire que ça se lit, faut le lire comme un poème, faut pas le lire comme un roman. Alors effectivement, du coup, les
longs poèmes.
Oui. C'est un long poème, mais c'est parce qu'il est découpé. C'est-à-dire que c'est pareil, quand tu lis Victor Hugo, Les Contemplations, c'est un bouquin qui fait 600 pages, et pourtant, ça te paraît pas, ça se lit par bout. Et c'est pour ça que des fois, on a utilisé des astuces typographiques en accord avec l'autrice. C'est que, y a pas de point et tout ça, mais de temps en temps, on met trois espaces pour que on puisse s'arrêter, quoi, dans la lecture. Alors oui, c'est de la littérature quasi expérimentale. Gertrude Stein, c'est une dame qui vivait au début du 20e à la fin du 19e et qui avait une particularité, c'est qu'elle était autrice et qu'elle était lesbienne. À l'époque, c'était pas, et elle montrait sans, et elle tenait salon de littérature. Donc, Picasso, enfin, il n'y a pas que littérature d'ailleurs, hein, y a tout. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui sortait du lot et qui a marqué son temps. Bon, on n'en parle plus maintenant, mais il y a plein de gens dont on ne parle plus maintenant qui ont marqué leur temps. C'est un hommage à Gertrude Stein qui est fait très intelligemment, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans ces salons de littérature, donc on croise des personnages très célèbres de l'époque. Et en même temps, un de ces personnages coexiste à ce monde avec sa sœur jumelle. Elle visite les États-Unis, elle lui écrit. Donc c'est un roman aussi de correspondance. Et c'est vraiment très drôle, c'est léger, c'est frais, c'est intelligent. Enfin vraiment, c'est moi qui suis pas un grand fan de ce genre de truc, quand j'ai lu le manuscrit, j'ai lu de bout en bout d'un seul coup. Quoi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire.
Là, on vient de parler donc de tes livres qui sont déjà sortis. Comment on les trouve ?
Alors, on les trouve... alors, faut pas hésiter. On peut les trouver de plusieurs façons. On peut trouver chez les libraires. S'ils n'ont pas, faut leur dire, va falloir commander chez Dilicom. Ou alors, on peut les acheter directement à la flamme, sur le site internet. Où les frais de port sont à 1 centime par Mondial Relais. Voilà.
Alors,
on les trouve dans certaines librairies à Angers.
Alors, à Angers, c'est pas fait encore. Faut que je me déplace parce que les coups de téléphone ne suffisent pas.
Bon. C'est au Renard qui lit à côté, à Chalonne.
À Chalonne,
ok.
Mais sur Angers, ça va arriver. Ce n'est pas du livre à la demande. C'est une maison d'édition qui est distribuée. Oui. Et donc, on est sur le circuit traditionnel du livre, comme n'importe quel livre chez Gallimard, etc.
Oui,
facile à trouver, à des prix tout à fait compétitifs, oui. Hein, dans les lois du marché. Ce qui veut dire aussi que c'est difficile à trouver, paradoxalement, sur des sites de revente de livres, genre Amazon. C'est pas du texte imprimé sur la...
Si, on le trouve sur Amazon. Mais c'est parce qu'ils ont un stock.
Ouais, voilà.
Ils nous ont... Alors, c'est pas nous qui gérons ça. On voulait pas spécialement vendre Amazon, mais Amazon, la Fnac et tout ça, par notre distributeur, ont passé des commandes pour avoir du stock pour pouvoir les envoyer. Voilà.
Et l'espérance de publication, on est à peu près sur quel rythme?
Alors, on a choisi un rythme lent parce que c'est beaucoup de travail.
Plus c'est lent, plus c'est bon.
On a découvert le métier. On connaissait le métier de l'édition, on pensait le connaître, mais il fallait connaître aussi le milieu des distributions. Et puis, c'est distribué, mais c'est mieux d'appeler les libraires, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur envoyer un mail avec les argus. Alors au début, on a envoyé des argus pour les libraires. Ouais, c'est pas ça qu'il fallait qu'on envoie. On l'a compris assez tard. Il y a des gens qui nous ont aidés. Hein. Donc, on envoie les argus pour leurs clients. Comme ça, ils ont...
Tout est fait.
Tout est fait. Ils lisent leurs argus et ils ressortent les arguments qu'on a donnés et tout. Alors, il faut savoir que quand on a commencé, on était un petit peu paumés, parce que distribution, diffusion, tout ça, c'est des mondes qui nous échappaient totalement. Donc, on a fait appel à... Je vais les citer parce que c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés. On a fait appel à Xavier Dolo, aka Thomas Géa, qui a monté sa société d'édition Ergil, mais lui qui connaissait, puisqu'il avait beaucoup travaillé chez Critique. Et puis, on a fait appel à Sébastien Cellerin, nom qui vous est pas connu, puisque...
Les Douze Singes, par exemple.
Les Douze Singes, voilà. Et qui s'installe là, dans la région, qui s'il n'est pas arrivé, il ne va pas tarder. Donc, qui nous ont beaucoup aidés, par exemple, il faut savoir que là, on vient de finir de négocier des droits pour un bouquin américain. C'est quelque chose, hein. D'abord, on négocie avec les Français qui sont des emmerdeurs finis. Et après, il faut que ce soit validé par les Américains. Alors, on a eu la validation hier.
Yes. Champagne.
Yes. Ouais. Non, ça, c'est quand tu auras les ventures.
Voilà. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est pas moi qui le fais, c'est Jérôme et Frédéric. Alors moi, je me suis occupé de monter la société, le machin et tout ça. Je peux vous dire que c'était un cirque. Si, ils ne savaient pas du tout. Moi, c'était ma cinquième. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai le contact, les banques, les experts comptables, tout ça. Ça aide. Mais le travail d'édition, c'est aussi un boulot. Parce que là, tout est relu. Là, on sort un truc qui s'appelle Le Fémur d'Alexandre, les chroniques pouloulelles. Eh bien, figurez-vous que les corrections, ça a été 50% du bouquin. Alors, non seulement il faut les corriger, mais il faut que l'auteur valide. Mmh. C'est pas tout. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, on ne se rend pas compte, mais c'est un taf innommable. Là, sur une traduction, on va sortir l'année prochaine. Il a fallu négocier avec la traductrice parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de trucs. Ça finit par se négocier un peu sèchement, mais on y est arrivé. Et donc, quand ça passe dans le rouge, c'est moi qui gère. Mais sinon, c'est vraiment du taf, quoi. C'est le monde de. Et puis, alors après, la typo et tout. Et on fait appel à une correctrice pro, issue de Formacom, donc la grande école des correcteurs français. Alors qu'on a tout corrigé, on a passé les trois logiciels de correction, on est passé dessus, on lui envoie, nous renvoie des trucs. Fait, putain. Alors, nous rend pas tout en rouge, hein, parce que Jérôme. Mais enfin, il y a encore des trucs qui passent au travers, quoi. Donc, c'est vraiment un métier. Alors, ça, on savait. Bon, on l'a pas fait pour les anthologies imaginaires, parce que mine de rien, c'est un coup. Mais c'est vrai que c'est vraiment un taf. Et que Jérôme et Fred s'en sortent magnifiquement bien.
Je pense que le temps défile. Ouais. Ça embrasse comme une allumette.
C'est beau ce que tu fais.
Je sais.
T'es un peu poète aussi, toi.
Ouais, je suis poète. Donc, maison d'édition qu'on aura peut-être le plaisir de retrouver au Salon Imaginaire 2026, s'il a lieu, si vous acceptez, et puis surtout dans toutes les bonnes librairies angevines, mais de France et de Navarre, avec des rencontres dédicaces dans les librairies proches de tes auteurs. Thierry Crouzet dans le Sud en a fait, Gertrude en a fait aussi dans le Nord.
Ouais. Et Brice, il commence à avoir des problèmes, il n'est pas tout jeune, donc on lui a proposé de le faire, il a fait « ouais, ok ».
Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va se faire.
Il fera tout seul.
Mais oui, on a fait avec Claudine Londres pour Gertrude dans une librairie parisienne, et c'était très 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 sympa. Je ne suis pas déplacé à Montpellier pour Thierry Crouzet, mais il était en terrain ami, et ça s'est très bien passé aussi.
Et donc, prochaine actu?
Alors, prochaine actu, on va faire le rétro-planning, le vrai. Et on va faire le rétro-planning là, début septembre, en sachant que les prochaines sorties sont en février. Et qu'on a trois romans, on en parle tout de suite ou?
Ah oui,
précommande?
Alors, il y aura des précommandes, bien sûr, sur le site. On annoncera ça sur les réseaux sociaux.
Je rappelle, donc, c'est les éditions à la flamme, trouvables sur Instagram, Facebook.
Facebook, Blue Sky, Mastodon, tout le monde.
Voilà. X aussi.
Sur X, je sais pas si on l'a fait X. On a peut-être boudé.
Ah, il faut.
Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir précommander en février?
Alors, en février, il y aura donc le bouquin de Sorel, parce que j'ai dit...
Sorel, Sorel. Alain Sorel.
Non, Nicolas.
Ah, n'existe pas. Enfin, peut-être.
Donc, Le Fémur d'Alexandre, ou Les Chroniques Pouloulelles, qui est un fix-up, donc une série de petites nouvelles très courtes. C'est très très drôle, c'est complètement un délire. C'est, on peut rigoler en lisant le bouquin. Il y aura...
Mais c'est du burlesque, c'est de la blanche, c'est de l'imaginaire, c'est de l'historique.
Je ne saurais pas le taxer encore, je suis vraiment désolé.
À 20% comme n'importe quel livre?
Ouais, c'est un mélange de burlesque et de chronique sociétale, on va dire. Voilà. Et puis, on sort Oxydo, donc de Robert Darvel, donc on auto-édite.
Un nouveau.
Ouais, donc un nouveau, il travaille sur un autre encore. Oxydo, c'est un roman, il nous a fait, ouais, je vais vous faire une parabole sur la conquista espagnole.
Bien.
On s'est dit, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Pourquoi pas?
C'est génial.
La dernière
Alors
fois...
c'est traité de manière absolument... c'est pas du tout, vous attendez pas à avoir des charges de conquistadors contre les Indiens. Mais c'est vraiment top.
La dernière fois qu'il a fait des critiques sociales paraboliques, c'était Nécroporno dans les éditions Crash. Alors du coup, j'ai un peu peur.
Non, non, mais c'est pas, on parle pas de la même chose. C'était celui d'avant qui était... Non, là, on est à 30% de fantastique, entre guillemets. Sinon, c'est magnifiquement écrit.
Enfin, vraiment historique.
Fred, plus ça va, mieux il écrit. On se demande quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et puis le dernier, c'est un truc un petit peu osé. C'est
Madame Web.
C'est un post-apo qui a été écrit à la fin du 19e siècle.
Du pré-post-apo.
Ouais, ça s'appelle After London. C'est écrit par Richard Jeffries. Ça a collé une sorte d'excitation chez notre ami Thomas Géa quand il a su qu'on allait éditer ça. Parce que il y avait quelqu'un qui a essayé de nous le piquer. Heureusement qu'on l'avait signé, parce que sinon il nous le piquait. Et pas de notre taille, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un post-apo, c'est Londres qui a été engloutie sous les eaux, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors c'est assez étonnant parce que le premier quart du roman, on est complètement dans le roman rural, avec des moutons, des machins, tout ça, on se demande ce que c'est en train de foutre là. Faut tenir ce quart-là. Qui est pas désagréable, hein, mais qui se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et après, on commence le roman dans le dur. Et c'est marrant parce que c'est... on est retourné dans des habitudes médiévales. Et le héros est un type qui est complètement décalé de ces trucs-là. Qui est un personnage important dans sa région. Mais qui est complètement décalé de ces trucs-là. Et c'est... exploration initiatique, enfin c'est très. Alors faut savoir que Richard Jeffries, alors je vais dire une bêtise, mais Richard Jeffries en Angleterre, c'est le Jules Verne,
ouais. C'est
le Jules Verne français. Sauf que Jules Verne est connu partout dans le monde, que
oui. Richard
Jeffries est un peu resté cantonné dans le.
Et peu traduit en France.
Et peu traduit en France, absolument. Il y a très. Ben alors notre texte est sorti une première fois il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, chez une maison d'édition, Le Miroir. Oui, c'est très mal vendu. C'était une maison édition qui n'était pas distribuée. Ça s'est très très mal vendu. Mais il ne possédait pas non plus les outils qu'on possède aujourd'hui pour faire connaître un livre. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refait la traduction. On a sorti la nouvelle qui avait lié à ce roman qui était sorti au miroir. Okay. On a retrouvé une nouvelle qui n'était pas dans l'opuscule qu'on a rajoutée. On a demandé aux Anglais, ah ouais, il y a un monsieur, il a fait une préface absolument géniale, on voudrait bien la récupérer. Donc on contacte le monsieur qui nous fait, ouais, il n'y a pas de souci, il faut contacter l'éditeur. Qui nous a dit, ça fait 8000 euros.
Oh.
Il a fait, oui, nous on avait prévu 300 dans le genre. Tu vois. Donc on fait, non, désolé. On recontacte le monsieur et on lui fait, vous aviez prévu combien? Nous on avait prévu 300 euros. Vous inquiétez pas, je vous en fais une. Donc on va avoir droit
à cette préface.
À cette préface, et complètement refaite, et qui est encore meilleure que celle de l'anglais. Et puis, il y a notre ami Jérôme Verdier qui a fait appel à un de ses amis, Monsieur Blanc, qui est un médiéviste et qui fait « Ah ouais, c'est trop bien !» et qui va nous faire une post-face avec des explications de... Ça va être notre gros... d'ailleurs, c'est celui qui nous coûte le plus cher. Ça va être notre grosse sortie de l'année prochaine.
Ok.
Voilà. Et donc, vous noterez que je n'ai pas parlé de l'américaine, dont on vient d'avoir les droits, qui sera donc pour l'année d'après.
D'accord.
Pas encore. Voilà. Voilà.
Bon, bah, une programmation très éclectique, puisque on a un roman, enfin un fix-up burlesque, un roman historique et un roman initiatique champêtre. Donc effectivement,
post-apocalyptique,
effectivement, on est quand même sur du singulier. Rendez-vous sur les éditions À la Flamme, leur site internet, pour la précommande et la chance de pouvoir trouver donc ces petites pépites bientôt dans les bacs. Merci beaucoup, Jean-Hugues.
Merci, Pierre-Marie.
Ça aurait été bien que tu choisisses un pseudo pour coller avec les autres pour la Maison à la Flamme.
Ouais, mais c'est, j'en ai proposé.
Ouais.
Et ils m'ont dit non, faut surtout pas ça.
L'oncle fétide.
Comment ça, voilà. Ah.
Merci, Jean-Hugues. Bon, on passe à... On n'a pas le temps d'écouter de musique. On passe à la chronique de Sébastien.
Non.
Alors, je vais vous faire un petit résumé de mon voyage, donc pour ramener la pierre de lune au Majdar, qu'on rencontre déjà dans un autre cycle, le cycle d'Astre d'Or, non pas que dans Loup solitaire. Donc le pitch, en fait, Loup solitaire nous charge, grand maître, on incarne un grand maître Kai, non pas Loup solitaire, de ramener donc cette fameuse pierre de lune au Majdar sur l'île de Lorne.
Donc c'est un spin-off de la série Loup solitaire.
Non, c'est la suite.
Ok.
Loup solitaire des grands maîtres dorénavant et leur confie des missions. Et donc ces deux tomes dont je vous parlais brièvement, Le voyage de la pierre de lune et Les pirates de Shadaki, c'est les 21e et 22e tomes, mais avec un nouveau personnage. C'est comme un premier et un deuxième, ça forme un diptyque. Et c'est sorti en 1994. Donc voilà.
Ça se trouve facilement.
Alors, grâce donc au travail combiné de Gallimard Jeunesse et de Scriptarium, ce quatrième cycle qui était vendu hors de prix,
ouais,
et Jean-Hugues doit le savoir en occasion, et qui était dans des versions poches dégueulasses, puisque la traduction française n'était pas au niveau. Eh bien, heureusement, on a de très belles éditions. Donc en grand format avec toutes les illustrations, ce qui n'était pas le cas de l'époque, et à un prix raisonnable de 14,95 €. Et moi, je me suis vraiment intéressé à un certain épisode où on va devoir avoir maille en fait avec un tyran d'une cité-état, Goltabras, dans le nord de Shadaki. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le sais, Jean-Hugues, Joe Dever malheureusement est mort, mais son fils Ben continue la saga Loup solitaire, avec un co-auteur français, une pointure sur le domaine de Loup solitaire, Vincent Lazzari. Et donc, pourquoi je vous parle de Sesquetera? On va apprendre que cette cité-état de Goltabras, elle va vouloir s'unir avec Fiofadali en Vasagonie du Sud, donc deux potentats cruels qui s'unissent. Et en fait, le potentat de Fiofadali va en fait... envoyer sa fille en mariage forcé à Sesquetera. Et on apprend également que Sesquetera, et ça m'a étonné quand on l'affronte en fait brièvement dans son palais, qu'il porte un médaillon de la science des armes. Et la science des armes, Jean-Hugues, c'est une des grandes disciplines de l'ordre Kai. Donc on a des informations, et par la suite du quatrième cycle, on ne retrouve plus ce personnage, mais au bonheur, dans le cinquième cycle, le Endgame, à partir du 29e, Vincent Lazzari m'a dit qu'on va retrouver le personnage de Sesquetera et qu'on va en apprendre un peu plus sur tout ce lore qui des fois est disséminé par Joe Dever mais qui n'a pas pu se poursuivre parce qu'il est mort malheureusement au 29e tome. Il n'a pas pu terminer la fin.
Mais alors, est-ce qu'il avait laissé des instructions pour
écrire
les
suites? Il a laissé, oui, des instructions pour l'écriture du 30e. Et après, pour le 31e, ils ont eu beaucoup plus de liberté.
Oui.
Donc moi j'ai hâte d'en apprendre plus sur le personnage de Sesquetera, ainsi que sur le personnage d'Oria, que le grand maître va vouloir aider, mais qui ne va pas pouvoir véritablement sauver de ce mariage politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Joe Dever, tu le sais Jean-Hugues, souvent se je peux pas dire qu'il s'auto-plagie, mais un peu comme Henri Verne pour les Bob Moran, il repique des scénarios qu'il avait déjà écrits. Mmh. Et ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait avec Massacre sur l'autoroute, voilà, du post-apo, qui est sorti en 88. En fait, on a le frère d'une brute qu'on tue, sans savoir qui c'était, pour empêcher une jeune femme, Oria, mmh, d'être la conquête de la brute qui va nous poursuivre de sa vengeance. Ici, c'est ce que t'auras. Et on a le cas similaire dans Massacre sur l'autoroute.
Ouais, qui était le deuxième tome des survivants de l'asphalte.
Le premier tome des survivants de l'asphalte que j'avais présenté l'année passée.
Ouais.
Alors c'est marrant parce que dans le quatrième cycle, ce que je disais avec un des membres de la taverne des aventuriers, Voyageurs solitaires, qui est très connu, il y a des objets spéciaux, bah tellement que c'est des objets spéciaux, mais pas la pierre de lune, on peut les revendre. On peut les vendre contre de l'argent, alors qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Et ce qui m'amuse, c'est qu'on a pas mal de choix, j'allais dire, cosmétiques. À un moment donné, on doit aller essayer de vendre des lingots de cuivre. On aide un capitaine de vaisseau, parce que les taxes sont très lourdes à Golta Brass, les taxes portuaires. Et à un moment donné, on a un objet. Ah bah allez, on tape la Cosette avec, bon, pas le maître de la guilde d'à la flamme, de la guilde des chaudronniers, et il nous donne une liqueur délicieuse qu'on peut emporter. Mais est-ce que c'est utile?
Ça, on ne le sait jamais dans un livre.
Voilà,
dont vous êtes le héros.
C'est un peu les choix cosmétiques. Alors, mais ce qui est vraiment pertinent au niveau du ludisme, c'est lorsqu'on va être aux prises avec un trio de geôliers dans la citadelle de Golta Brass. On va être enfermé dans une cellule, mais vraiment pas 6 pieds sous terre, mais vraiment une cellule très 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 protégée.
Aux oubliettes.
Voilà, aux oubliettes. Et là, c'est intéressant parce qu'on a. Est-ce que vous avez telle ou telle ou telle discipline? Moi, j'avais la grande discipline du foudrement psychique, mais je me suis dit que ça allait me coûter des points d'endurance et j'ai décidé de crocheter la serrure. Et là, c'est intéressant parce que c'est à nous de se dire, allez, est-ce que utiliser cette grande discipline à ce moment-là, c'est utile? Parce que je peux me rappeler que j'ai une broche pour ma cape et hop, je crochète. Donc, ça peut être plus intéressant. Et attention, parce qu'on a aussi à éviter les geôliers, parce que là, on est à main nue. Même si on perd pas de points d'habileté, parce qu'on est un super héros, un peu comme Madame Web, mais on n'a pas notre arme caille qui nous octroie beaucoup plus de points d'habileté supplémentaires en cas de combat. Et puis, bah, sans certaines grandes disciplines, je me suis aperçu qu'on peut mourir si, on chute vraiment d'un pont et on a une flèche, qui nous perce la nuque, parce qu'on n'a pas certaines grandes disciplines qui nous aident à avoir de meilleurs tirages lorsqu'on lance le dé à 10 faces, c'est-à-dire qu'on rajoutait des points avec l'art de la chasse, l'invisibilité. Et après, on s'aperçoit également que Sescutera, c'est quelqu'un qui est très puissant. J'avais dit qu'il a un médaillon de la science des armes. Pourquoi, les amis? Eh bien, il faut ouvrir le cinquième cycle. Mmh. Il a 53 d'habileté. Et à côté, les adversaires du Voyage de la Pierre de Lune, c'est, on va dire, du pipi de chat. Et on a même un super dinosaure. C'est pas Tyrannosaurus Imperium, mais une sorte de gros reptile dans l'eau qui a 50 d'endurance. Donc là, il va falloir vraiment avoir de la chance au dé. Et on a quand même, donc, comme je le disais, une fin d'épisode en demi-teinte. C'est ce que t'auras croit qu'on est mort dans l'eau avec le grand carnassier. Bam, je reviens me marier avec Oria. Mais heureusement, grâce à la magie qui a réuni Ben Dever et Vincent Lazzari, on en apprendra encore plus sur Sescutera, sur Oria, sur ce qu'ils deviennent par la suite. Et pour finir, je vous invite naturellement à racheter le quatrième cycle en grand format, même si vous l'avez en poche, parce qu'il y a des apports qui sont très pertinents. Par exemple, un paragraphe, on nous parle bien de la discipline caille, de l'orientation. Non pas, les amis, des techniques caille d'orientation, ça fait un peu fourre-tout. Et on a même, par exemple, dans la tour de la vérité, je finirai là, un choix d'armes spéciales. Dans la version poche, ça ne donne pas de points d'habileté en plus. Là, on a un arc du Dessi, des anciens mages. Il va nous donner un point en plus lorsqu'on tire avec l'arc et qu'on lance le dé. C'est-à-dire que les auteurs, donc, Scriptarium, Vincent Lazzari, ils conseillent Gallimard Jeunesse pour apporter des petites choses en plus.
Petite révision.
Qui n'existaient pas dans le poche. Pour rendre encore l'aventure plus attrayante. Et pour moi, c'est un voyage, pour bien conclure, comme me l'a rappelé Emmerich, qu'on connaît bien de Twitch, un voyage, ma foi, très sympathique et qui va vous transporter comme les bouquins d'À la flamme.
Très bien. Bon, un petit blind test musical avant d'écouter la chronique de Jean-Luc sur Madame Web.
When I wake up in the morning, I've an hour.
Alors, ça trouve pas beaucoup sur le chat non plus. D'où vient cette chanson? On sait que la rubrique Nanar de Jean-Luc arrive, alors...
Ça vient de Spotify.
C'est peut-être sur Spotify. Ah. C'est la musique d'un film.
Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on veut Jean-Luc.
Ce morceau disco, vous ne l'avez pas entendu au camping cet été, mais peut-être à la télé, peut-être sur TF1+, mais non, je crois pas. Ah. C'est Oliver Onions. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le pseudo Guido et Maurizio De Angelis, je crois. Donc, c'était des Italiens qui faisaient de la musique de film. Et c'est un film qui s'appelle Père et Impair. Brotherly Love.
Oui,
ça vous dit quelque chose, Père et Impair?
Un bon film.
C'est le préquel de Casino Royale.
C'est pas des frères?
Non, c'est pas des frères. C'est Bud Spencer et Terence Hill.
Ah, un grand classique.
Ouais. Je vous passe ça parce qu'il y a un livre en full lancement en ce moment sur Pulse, les films de... Ouais. Et oui, c'est ça, Pulse Vidéo. Ça ne Pulse peut Vidéo, être que... Ils font Croque Vacances aussi en même temps.
Ouais, c'est
non.
Vrai, c'est vrai.
Voilà. Le full lancement est encore fait des prolongations. Donc si vous voulez vous acheter ce gros livre qui va sortir sur Bud Spencer et Terence Hill, c'est le moment. Dans les bonus, il y a des jolis t-shirts. Et puis aussi, j'ai vu qu'ils avaient des cuillères à faillot.
Ouais, c'est ça. J'adore. Voilà,
je suis estomaqué par la culture de Jean-Luc. On n'aurait pas dit. Hein. Moi, quand je le vois, je ne me dis pas ça, mais waouh.
Bon, alors attends, on n'a toujours pas de jingle pour ta chronique Nana. Ah,
moi, je veux bien le faire.
On t'écoute à propos de ce Nana multi.
C'est la chaîne qui
redémarre. Père et impair.
Non, Madame Web.
Ah.
Pas vraiment.
Le débat est lancé.
Attention, ça va tisser.
Attention. Alors aujourd'hui, on nous plonge dans l'univers Marvel, ou plutôt dans le multiverse de Sony. Voilà.
Le Spider-Verse.
C'est ça. Madame Web est sortie en février 2024. Ce film est porté par Dakota Johnson, qui a joué dans 50 nuances de Grey, un film très intellectuel. J'imagine, voilà, je pense que vous connaissez. Voilà.
Il y a une suite en plus.
En plus, il y a une suite.
Deux même, je crois.
Deux suites, c'est ça. Deux suites, c'est ça. Donc le film a eu beaucoup de critiques. Je sais pas pourquoi. Voilà, franchement, Madame Web est une véritable toile captivante ou un nanar. Donc je sais pas ce que t'en penses, Seb. Pour toi, c'est quoi? C'est un nanar ou c'est un bon film?
Bah, pour moi, je vois pas ça comme un nanar. Je vois ça comme un téléfilm.
Non, mais t'as raison.
Alors peut-être qu'il a eu beaucoup de razzies parce qu'on on attendait beaucoup.
C'est ça.
Et patatras.
Je peux dire, il a reçu le radis du pire film.
Quand même.
L'actrice, le radis de la pire actrice.
Bon.
Et le radis du pire scénario.
Ah.
Voilà.
Donc, alors, moi, c'est quoi ce pire scénario?
Ils ont fait un total. Voilà, quoi. Donc, le film a été réalisé par S.J. Clarkson. Madame Web raconte l'histoire de Cassandra Web, une noble ancienne new-yorkaise avec une expérience de mort imminente. Elle découvre un pouvoir de clairvoyance. Donc, elle peut voir dans le futur et voilà. Très vite, elle se retrouve confrontée à un homme mystérieux, Ezekiel Sims, qui est joué par Tahir Rahim, un acteur français, un très bon acteur. Donc je sais pas ce qu'il fait là-dedans. Je pense qu'il s'est perdu.
Il a peut-être eu un gros chèque quand même.
Ouais, c'est ça, un gros chèque, mais pour sa carrière.
Est-ce qu'il y a Lucien Lonkikiner dans le non?
Vas-y.
Non, c'est lui Lonkikiner. Merci beaucoup, Jean-Yves.
Elle est chronique.
Merci, Jean-Yves.
Avec non, parce qu'on aura l'antenne dans 5 minutes.
Je me dépêche, alors.
Pas comme Madame Web. Vas-y.
Madame Web est assez lente en ambulancier en plus.
Et en plus, elle doit tenter de protéger 3 jeunes femmes promise à devenir les futures Spider-Woman.
Ah.
Voilà, donc des Spider-Woman qu'on ne voit se battre une seule fois dans tout le film.
Et dans le rêve.
C'est ça, dans son rêve à Ezekiel. Un film qui dure à peu près 116 minutes, donc voilà. Une baston de 10 minutes, c'est sympa, toujours. Le film a reçu une critique assez sévère, on va dire. Avec 11% sur Rotten Tomatoes.
Ah oui, c'est pas beaucoup.
Ah, pas du tout. Ah non, mais là, c'est
pas une note sec, un Rotten Tomatoes.
Là, c'est énorme. Madame Web a été qualifiée par certains médias comme un désordre épouvantable ou encore un échec inévitable. Ce qui est normal. Les spectateurs eux-mêmes sont partagés. Certains saluent l'arrivée de nouveaux personnages Marvel et une approche plus mystérieuse qu'explosive. Donc, d'où le nombre limité de combats. C'est ça, très très limité, j'ai envie de dire. D'autres dénoncent des effets spéciaux bâclés. Qui date des années 2000.
Bah, on est encore un peu, non, dans les années 2000.
Oh, un peu plus quand même.
Oui, puis alors, moi, je vois pas le problème de mettre des effets spéciaux des années 2000. On a bien fait fond de terroir. Hein.
Rétro, ça fait très rétro, quoi.
C'est vrai.
Un méchant sans charisme. C'est vrai. Pour moi, le meilleur méchant pour l'instant, c'est Killmonger dans Black Panther. Je sais pas pour vous, c'est qui votre méchant préféré dans Marvel?
Thanos là ou
ouais, moi j'aurais dit Thanos.
Ah, non, non. Alors, ouais. Le personnage est intéressant, mais l'acteur et ce qu'ils en ont fait de sur un film,
ouais,
effectivement, qu'ils m'ont mis sur film, extraordinaire.
C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup,
il a une réelle présence plus que T'Challa.
Ah, d'accord. Assez ouais, c'est bizarre, ça. Ouais. J'espère qu'il va revenir dans les futurs.
Bah, il est mort.
Oui, mais ouais, dans le multivers.
Si tu as vu la série Ace of Wakanda, il y a un clin d'œil.
Pas encore. On va éviter les spoils, mon cher.
Mais du coup, vas-y.
Voilà. Côté chiffres, le bilan est assez mitigé. Près de 100 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 80 millions. Je prends comme exemple le premier Iron Man qui a fait 50 millions voilà, de budget pour une recette de 585 millions.
Ouais, mais bon,
donc un très bon
c'était le premier Iron Man.
Voilà, donc voilà.
C'est peut-être ça, que là, au bout du 33e, les gens se lassent.
Il n'y a pas que le fait que ça soit Iron Man. C'est que c'est aussi le seul best-of d'ACDC qui existe. ACDC a toujours dit, on ne fait jamais de best-of. Et là, ils ont sorti un film avec un film.
Il n'y a que ça, voilà, c'est ça.
Ça aide un petit peu. Il y avait un film de Stephen King avec des camions et tout, là.
Vas-y, Jean-Luc, continue.
Les années 80.
Te laisse pas perturber.
Ça serait dur. En définitive, Madame Web restera peut-être moins dans la mémoire pour son intrigue que pour le débat qu'il a suscité. Faut-il élargir à tout prix l'univers Marvel, quitte à perdre en qualité, voilà, mettre trop de personnages ou autre. Les fans les plus curieux iront voir une tentative audacieuse d'exploiter de nouveaux personnages.
Wow.
Tandis que d'autres n'y verront qu'un film de super-héros de plus sans éclat. À vous de décider si vous vous laissez piéger dans la toile de Madame Web.
Ça donne pas envie. Hein.
En fait, moi, j'ai voulu le voir parce que c'est la première apparition de Silk, Spider-Girl et Spider-Woman, qui sont trois personnages que j'aime énormément.
Que mais tu aimes énormément dans les bandes dessinées.
Dans les bandes dessinées.
C'est ça.
Mais entre Kraven, Moebius, Morbus, et là, le Spider-Verse, il sert pas à grand chose.
Non, le Spider-Verse de Sony n'est pas terrible. Voilà, il faut dire ça. Voilà. On verra quand il passera chez Marvel à 100%. Je pense que ça va le faire.
Alors, c'est-à-dire, expliquez-moi, là.
En fait, les droits sont encore chez Sony, mais ils peuvent l'exploiter en donnant à Marvel les droits de Spider-Man. Donc, ils n'ont pas complètement les droits sur tous les personnages de chez du Spider-Man-verse. Voilà. Donc, en espérant que plus tard, ils puissent être tous chez Marvel, clairement.
Ok.
C'est pour rappeler ça, c'est ce qui se passait. Sony a été le premier distributeur de films de super-héros. Ils avaient Spider-Man, ils avaient les 4 Fantastiques, ils avaient les X-Men. Et à défaut d'avoir exploité pendant un certain temps, les droits sont repartis chez Marvel.
Ouais.
C'est pour ça que régulièrement, il y a des films du Spider-Verse qui ressortent de manière à ce que Sony puisse garder les droits pour l'instant.
C'est ça.
Mais vu ce qu'ils en font...
Voilà, donc voilà, et on verra dans le Doomsday, on verra les 4 Fantastiques, on verra